One, two, three, ho!
Si Gibraltar est un des trois,
ouais.
Qui sont les deux autres? Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on va avoir une émission consacrée à la biodiversité parce que le vélo sauve la biodiversité et on fait pas ça n'importe où, on fait ça au festival, tu vas le dire mieux que moi Franck.
Ouais,
puisque...
le festival Nature Armor organisé par l'association Vive Armor Nature.
Ouais, j'avais peur de confondre festival Vive Armor machin.
J'ai fait un petit peu exprès.
Alors la voix que vous venez d'entendre c'est Franck qui est le futur directeur de ce festival, le futur directeur de l'association Vive Armor, je dis
ouais,
bien ça.
C'est ça, en fait moi ça fait déjà 15 ans que je suis dans la boutique, hein, dans cette association. Je suis passé par un peu tous les stades, stagiaire, bénévole, administrateur, salarié, chargé d'études, chargé de mission. Et naturellement, là, je vais remplacer notre directeur actuel qui va vaquer à ses occupations, mais qui sera quand même bénévole actif chez nous encore. Et donc voilà, c'est naturellement que ça s'est fait.
Alors, vous avez entendu, ça, c'est le festival Armor, parce que nous sommes dans les Côtes d'Armor, préfecture Saint-Brieuc et association de vélo Saint-Brieuc, Vélo Utile. Priscilla de Vélo Utile, ça va?
Oui, très bien.
Bon, c'est cool. On va parler vélo et biodiversité. On va s'intéresser à ce qui se passe à Saint-Brieuc au niveau du vélo. Qu'est-ce que vous y faites, etc. Et on va d'abord parler du festival en lui-même. Est-ce qu'on peut, savoir combien il y a de personnes qui viennent à ce festival? Alors, la particularité, c'est que c'est un festival qui tourne. C'est-à-dire qu'il n'est pas tous les ans au même endroit. Il tourne dans tout le département. Et puis, il s'étale. C'est toujours au mois de février. Ça dure un week-end.
Ouais, c'est entre fin janvier, début mars. Ça dépend des disponibilités des équipements. Puisque comme on est en hiver, c'est un festival d'intérieur.
Ouais.
Très vite, au bout de la deuxième année, on l'a rendu itinérant dans toutes les villes qui peuvent nous accueillir dans les Côtes d'Armor. Pour aller toucher la population, les riverains, là où ils se trouvent. Le but étant de sensibiliser les locaux à la nature qui les entoure. C'est vraiment un festival qui a un rayonnement breton. On parle faune, flore sauvage, espace naturel breton. Et on s'est rendu compte à travers nos enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs que généralement, notre pouvoir d'attractivité, c'est 25-30 km maximum. Donc si on ne se déplace pas, on aurait toujours les mêmes personnes à sensibiliser.
Alors évidemment, puisque ce sont des gens qui sont sensibles à la biodiversité, tout le monde vient en vélo.
Pas vraiment, non.
Non,
quand on voit rien que ce matin, la gestion des parkings, la plupart des gens sont en voiture. Mais moi, le premier, hein, bon, on a beaucoup de choses à transporter pour le festival.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà.
Mais on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont plus proches, qui pourraient venir en vélo. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a plein de festivals de choses qui sont liées à la biodiversité, à l'environnement. Et les gens ne font pas tellement le lien entre leur façon de vivre et ce qu'ils viennent admirer, ce qu'ils aiment, c'est-à-dire la biodiversité. Et il se trouve qu'il y a un festival qui est un petit peu qui essaie de montrer l'exemple. Et l'année prochaine, ce qu'ils vont faire, c'est que pour essayer de mettre les gens qui viennent au festival un peu plus sur leur selle plutôt que derrière leur volant, ils ont décidé de se lier avec une association de promotion du vélo. Tu vois de quoi je suis en train de parler, Franck?
Ouais, très
Priscilla,
bien.
Tu comprends
aussi le truc? Ouais, très bien, très bien.
Ce que fait l'association de promotion du vélo, c'est qu'ils viennent faire un gardiennage de vélo sur le parking du festival. Et du coup, dans leur communication en amont, le festival, ils disent « Venez en vélo, on tue moins de hérissons, déjà. » C'est déjà pas mal. Et puis, l'association de promotion du vélo, elle fait le gardiennage sous un parking couvert et en même temps, elle fait le petit entretien. Ils brossent les chaînes, ils remettent de l'huile et puis ils regonflent les pneus. Tout le monde est content. Puis, c'est un moyen pour le festival de dire « Allez, soyez cool, vous aimez la nature, vous venez l'observer ici, prenez votre vélo. » Est-ce qu'on peut imaginer...
Ah, t'es en train de me donner de très bonnes idées, là, en fait.
C'est
parce que
ça...
je réfléchis déjà à l'édition future.
Tu vois, Priscilla, comment tu le sens ça?
Pourquoi pas, oui. Partenariat effectivement à créer sur cette question-là, parce qu'on est seulement à 20 km de Saint-Brieuc, en fait,
ouais.
On est tout près. Et effectivement, là, en venant ici, moi-même, j'ai dû me faire prêter une voiture, hein, parce que je n'ai plus de voiture. Et c'est un peu triste, quoi, parce que j'ai regardé pour venir en train, c'était pas simple depuis Saint-Brieuc. Les bus, pareil, la fréquence était pas géniale. Alors que, comme tu disais, c'est quand même un festival d'envergure régionale. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus, justement, d'infrastructures mises en place pour inciter les gens à lâcher leur voiture.
Alors c'est pas un festival qui est en train, enfin c'est pas une mission, on est en train de casser du sucre sur le dos du festival. Non, non,
ah non,
y a pas de...
non.
J'espère qu'on est clair là-dessus. Hein.
Ah non, non.
Alors pourquoi est-ce que le vélo c'est bon pour la biodiversité? C'est quoi, j'ai envie de te poser la question, Franck, c'est quoi le pire ennemi de la biodiversité en fait ?
En fait, il n'y a pas de pire ennemi, c'est des facteurs multiples, souvent d'origine anthropique, enfin, c'est souvent à l'origine des activités humaines.
Cite-nous-en quelques...
On parle de l'exploitation des ressources naturelles, c'est quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. Hein,
tac, je t'arrête là.
Allez.
Et c'est mon premier point. En fait, à chaque fois que tu vas dire quelque chose, d'accord, j'aurai quelque chose à te raconter par rapport au vélo. Priscilla, tu me confirmeras que je ne dis pas de bêtises. Okay. L'exploitation des ressources naturelles. Ben, il se trouve que quand on choisit son vélo plutôt que sa voiture, une voiture pèse une tonne, un vélo pèse 15 kilos. Donc beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de métal, beaucoup moins de plastique, beaucoup moins d'énergie pour la déplacer. Donc yes, le vélo sur ce point de vue-là, sur le point de vue des ressources, sauve la biodiversité. C'est pour ça, si on vient sur un festival et qu'on aime la biodiversité, bah, faut venir en vélo. C'est en amont qu'on sauve le truc. Allez, je te propose de me dire un autre truc qui détruit la biodiversité.
Bon, là, je vois le lien très proche avec le vélo. On a parlé changement climatique ce matin avec un conférencier.
Ouais. Alors, il se trouve que le plein contenu dans une voiture, donc un plein, c'est à peu près 60 litres, ça contient autant de carbone qu'un chêne qui serait planté et qui aurait à peu près 7-8 ans. À peu près, puisque la masse d'un arbre sec, la moitié, c'est composé de carbone. Donc, à chaque fois qu'on fait un plein, il faudrait planter un arbre et le laisser pousser 7-8 ans. Et si on fait du vélo, déjà, on rejette moins de CO2. Et en plus, on libère de la place pour planter des arbres. Moi, j'aimerais bien qu'à la place des grands parkings de supermarchés ou les parkings le long des routes en centre-ville, on plante des arbres. T'imagines le nombre de pleins qu'on pourrait économiser ?
C'est vrai.
Ouais, c'est considérable.
J'allais te parler de l'artificialisation des sols. C'est vrai que si on peut remplacer les parkings par des forêts, on est en plein dedans.
Parce qu'une ville qui serait faite pour la voiture, tu es d'accord, Priscilla, c'est une ville qui est plus dense et du coup qui s'étale moins.
Qui est faite pour la voiture ou qui est faite pour le vélo ? Plutôt pour le vélo aussi.
Je voulais voir si tu suivais. Bravo. Oui, j'ai confondu. Ça m'en reste un peu vite.
Effectivement, nous, on a toujours tendance à dire qu'une ville qui est faite pour le vélo, c'est une ville à taille humaine. Donc effectivement, avec un habitat qui est plus dense, avec moins d'artificialisation des sols, évidemment, puisqu'on va essayer de valoriser le bâti existant et les terrains qui sont déjà disponibles, plutôt que de s'étendre dans un modèle de périphérie, périurbain, dont on voit bien aujourd'hui les externalités, comme on dit, qui sont particulièrement nuisibles à l'environnement dans sa généralité et la biodiversité, bien évidemment. Là, effectivement, en venant, on peut être que frappé par l'emprise au sol que prend la voiture et notamment sous la forme de parking. Là, on est dans un lieu quand même qui est exceptionnel. Merci de m'avoir invité aujourd'hui parce que je ne suis jamais venue au Haras National de Lamballe, donc c'est l'occasion pour moi de découvrir le lieu. Mais quel dommage d'avoir cet immense parking devant alors qu'on a un lieu d'exception. Donc ça pose vraiment question. Quoi.
C'est pareil sur toutes les villes. Une ville faite pour la voiture, c'est une ville qui s'étend, qui prend des ressources naturelles, qui prend des espaces, des superficies à la nature. Et du coup, une ville qui serait faite pour le vélo serait une ville beaucoup plus dense où on pourrait même avoir le retour de la nature en ville. Alors nous sommes en 2020 et 2020, c'est une année d'élection et Pause Vélo compte jouer son rôle de lobby du vélo à plein, surtout lors de ces municipales. C'est pourquoi nous avons fait appel à Séraphin qui tient sa chronique pour faire en sorte que le vélo soit pris en compte dans les futures élections.
Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul.
Donc votre chef, c'est le chauve.
Non, c'est moi.
On ne peut pas mentir éternellement au peuple.
Mais si on peut, on peut très bien.
Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, la FUB lance son site dédié aux élections municipales. Le but, recueillir les engagements sur le vélo des candidates et des candidats. Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau de référents locaux qui sont les relais d'un travail collaboratif réalisé sur leur territoire. Il peut s'agir du représentant d'une association locale ou de n'importe quel citoyen qui souhaite promouvoir le vélo dans sa commune. Tous les référents locaux sont ensuite validés et éventuellement orientés et soutenus par un référent régional. Les collectifs locaux s'organisent donc pour rédiger un plaidoyer et composer un questionnaire. En allant voir les candidates et les candidats, les référents locaux vont ensuite leur demander de s'engager sur les propositions. Le site est déjà parti sur de bons rails, avec 400 référents, 135 questionnaires et une quinzaine de réponses obtenues. Objectif, 1000 communes couvertes et 2500 réponses de candidates et de candidats. Si vous voulez suivre les réponses près de chez vous, vous pouvez vous abonner au scrutin directement sur le site et vous recevrez un mail dès qu'un candidat aura répondu au questionnaire. L'idée au travers de cette stratégie pour les municipales, c'est de mettre le vélo au cœur des débats et surtout de faire comprendre aux candidates et aux candidats que c'est un sujet important. Important parce que le vélo est le moyen de transformer leur commune pour la rendre plus agréable, plus apaisée, plus respirable. À travers le vélo, c'est une conception de la qualité de vie qui se joue. C'est un sujet important aussi parce que des dizaines, des centaines ou des milliers de citoyens feront leur choix dans l'isoloir en fonction de ce que proposent les programmes sur les mobilités et le vélo en particulier. Cela peut paraître très terre à terre, mais si on arrive à faire prendre conscience aux cyclistes comme aux candidats que la question du vélo est déterminante pour le choix d'un programme politique, alors on fera avancer le vélo. Prenons un exemple. 20% des Français environ sont favorables à la chasse. Ces 20%-là sont mobilisés et le lobby des chasseurs arrive à montrer aux politiques que leur vote dépend de la proposition du candidat. Ils pèsent donc plus que les 80% restants qui, s'ils sont opposés à la chasse, ne déterminent pas leur vote sur ce critère. Leur voix n'est donc pas entendue. Tout le travail de la FUB est donc de construire ce lobbying citoyen au niveau local, régional, national et même européen avec l'European Cyclist Federation, l'ECF. Plusieurs démarches sont engagées en ce sens. Peser sur les candidats, former les associations, techniciens et élus, partager les bonnes pratiques, évaluer les stratégies. Ce sujet sera d'ailleurs l'objet de la chronique de la semaine prochaine où on parlera du palmarès des villes cyclables. Allez, à la semaine prochaine.
Nous sommes toujours au festival Nature Armor en présence de Priscilla de l'association Vélo Utile de Saint-Brieuc et avec Franck qui est, je dis le directeur parce que quand le montage sera fait, quand l'émission sera sortie, tu seras directeur, donc on peut dire ça.
Oui.
Alors, on continue sur le lien entre vélo et biodiversité. Quels sont les autres liens entre le vélo et la biodiversité que tu peux faire comme ça ?
On en a déjà pas mal parlé. Et si je veux te sécher, mais je suis sûr que je ne vais pas te sécher, un autre facteur aggravant pour la biodiversité, on parle beaucoup de l'introduction des espèces exotiques. Ça vient par les transports. Je pense qu'on en transporte peu par vélo.
Ça vient beaucoup moins vite, d'où l'intérêt de faire du vélo.
Ouais.
En fait, il y a une des activités que vous avez dans l'association qui est juste géniale, parce qu'on peut dire que quand même, il y a beaucoup moins de hérissons écrasés sur les pistes cyclables que sur les routes. Est-ce que je me trompe ?
Ouais, on peut même parler des amphibiens. En ce moment, c'est les périodes de migration des amphibiens qui viennent.
C'est là que je t'emmène.
Les crapauds, les grenouilles qui viennent se reproduire dans les mares. On a obtenu cette année, après 3 années de suivi d'une route départementale qui était un vrai couloir d'écrasement, hein, plusieurs milliers de crapauds, de grenouilles, de tritons, de salamandres qui se faisaient écraser. On avait des bénévoles qui tous les jours allaient compter jusqu'à ce qu'on mette en place des barrières pièges pour tous les matins aller les prélever dans des seaux et leur faire traverser la route et ainsi éviter de se faire écraser. On a obtenu cette année, cet hiver, la fermeture de cette route départementale dans les Landes de la Poterie, pas loin du lieu où on se trouve aujourd'hui à Lamballe. Et ça, c'est une vraie victoire, de se dire que ça a été pris à bras-le-corps par la collectivité, par les élus locaux, par les techniciens qui ont suivi notre travail de diagnostic sur cet impact routier en termes d'écrasement des amphibiens. Et on a obtenu la fermeture temporaire de cette route départementale, avec en plus des réunions publiques où, à part un ou deux riverains récalcitrants, c'était plébiscité par les gens. Il y a une vraie prise de conscience, je pense, des gens qu'il faut agir concrètement, et quitte à se passer de leur bagnole ou à faire un petit détour de 2 minutes. Quoi.
Alors, je répète concrètement pour que ça soit bien clair, parce que ça semble tellement extraordinaire ce que tu viens de dire. Il y a une route départementale qui est fermée pendant combien de temps déjà ?
Alors là, c'est de décembre à mars-avril. J'ai plus trop les dates en tête, mais c'est quand même toute la période hivernale où c'est fermé.
C'est fermé pour laisser passer les grenouilles et les tritons. Le truc de fou.
C'est ça. Et il y a une très bonne communication autour de cette route départementale avec des panneaux d'affichage pour la personne qui n'est pas du tout au courant de ce truc. Quand elle arrive, elle voit pas simplement les barrières anti-franchissement et un sens interdit, il y a un gros panneau qui explique l'importance de préserver les amphibiens et la raison pour laquelle on a fermé cette route. Et ça, je pense que c'est vraiment accepté aujourd'hui du public.
Et ça, c'est formidable. Donc, comme quoi, la voiture, quand même, ça déchique un peu les amphibiens si on ne fait pas quelque chose.
Franchement, il faut aller faire les relevés, c'est triste. Hein, quand on voit tout ça qui est écrabouillé sur la route, ouais, c'est pas top.
Et à l'inverse, cet été, je suis parti en vacances à vélo, j'ai suivi une voie verte dans le bocage normand. Donc la voie verte, elle est de chaque côté, gauche et droite, elle est protégée par une haie. Et j'étais surpris du nombre de papillons, d'insectes que je mangeais. Je ne pouvais pas sourire parce que si je souriais, j'avais des impacts. Et juste le fait d'avoir une voie verte, donc ce n'est pas une autoroute, hein, une voie verte avec des haies, c'est incroyable ce que ça fait pour la biodiversité. Je ne me suis pas penché pour voir ce qu'il y avait comme petits mammifères ou petits reptiles, etc. qu'il y avait en dessous. Mais en tout cas, vu la quantité d'insectes qu'il y avait, j'ai trouvé ça formidable.
Nous, dans nos locaux, à proximité immédiate de nos nouveaux locaux à Vivre en Nature, on avait, donc c'est des locaux qui appartiennent à l'agglomération de Saint-Brieuc, une gestion classique avec la tondeuse qui passe tous les 15 jours, quoi, on va dire, à la belle période. On a demandé à arrêter la tonte et donc laisser en jachère comme ça. Donc aucun entretien, moins de travail pour les techniciens, moins de machines à acheter pour la collectivité. Et puis les techniciens étaient employés à autre chose. Très vite, on a vu une biodiversité arriver jusqu'à un lièvre un matin qui est parti en courant. Quand tu arrives au boulot, c'est sympa, quoi. Et à côté, on avait laissé la tonte se faire et c'était mort, quoi. Il y avait rien. Donc et nous, on a créé le principe de refuge à papillons comme ça, qui sont en fait des refuges à biodiversité. Quand on laisse en jachère comme ça, on renaturalise un site, même quelques mètres carrés dans son jardin, ça suffit. On voit tout de suite même les gens qui nous appellent, qui ont mis ça en place chez eux. Oh là, je vois plein de papillons cette année, j'en avais pas l'année dernière, forcément. Si on met des plantes qui vont les attirer pour se reproduire, pour se nourrir, etc., ben, ils vont venir.
Et à tout hasard, est-ce que tu as un chiffre sur la mortalité des, peut-être des batraciens, mais peut-être plus sûrement des hérissons sur les routes de France ?
Alors non, moi j'ai pas de chiffre comme ça. Alors je sais qu'il y a, en ce moment-là, il y a une étude, un concept de science participative où on demande aux riverains de signaler la présence de hérissons ou pas dans leur jardin. Le ou pas est important, l'absence aussi. Et c'est le groupe associatif Estuaire qui est présent au festival et qui mène cette étude qui démarre tout juste au niveau national. On sait qu'il y a une tendance à la baisse, mais on ne l'a pas encore chiffré. Donc on peut espérer que si tout citoyen qui participe à cette étude nationale, c'est quelques clics sur Internet, vous tapez groupe associatif Estuaire, hérisson, vous allez tout de suite tomber dessus. Mais on sait qu'il y a une diminution forte des populations de hérissons, en partie à cause de la mortalité routière.
Allez, partons à l'aventure avec le cycliste solitaire Okan qui a quitté la Suisse, direction plein est, vers le pays du soleil levant. Okan, t'es où ? Raconte-nous ton histoire.
Hello, pause vélo. Alors, on en était où ? Organiser le vélo pour l'avion, c'est fait. Dire salut à la famille en larmes, ça aussi c'est fait. D'ailleurs, emballer le vélo, ça a été vraiment hyper relou. À la base, je voulais mettre Perceval dans un carton de télé. C'est ce qui se fait d'habitude, hein, mais le carton que j'avais trouvé était trop petit malheureusement. Du coup, on est allé acheter 4 gros cartons et 15 mètres de papier bulle. On a essayé de protéger les parties fragiles au maximum. On a scotché le tout, déposé le vélo dans l'espace des bagages spéciaux, payé les 60€ de frais supplémentaires et Inch'Allah qu'il arrive volontiers. C'est mon oncle qui m'a déposé à l'aéroport vu qu'il bosse sur le chantier. Ils sont en train de l'agrandir justement. Et ce qui est vraiment cool, il m'a fait un au revoir tellement stylé. Il est machiniste et il gère une grue. Il l'a déplacé exprès pour moi. Il avait mis une petite banderole sur la grue pour le départ. Mais malheureusement, il y avait tellement de brouillard que j'ai pas pu le voir. C'est l'heure de décoller pour Singapour. J'ai de la chance, hein. Mes affaires ils étaient déjà sur le tapis roulant quand je suis arrivé. Et le vélo aussi était dans la zone de bagages spécial. C'est le début du suspense. Est-ce que le vélo est en bon état ? J'ai un peu la pression, hein, parce que j'ai vu comme ils l'ont sorti de l'avion. Je te dis honnêtement, hein, j'ai insulté le bagagiste. Je me suis mis dans un coin et j'ai remonté le vélo. Ça m'a pris environ 2 heures. Je suis pas très manuel, hein. Mais bon, au moins tout est en ordre, prêt pour la seconde partie de l'aventure. S'il y a des puristes qui me disent « Ouais, t'as triché, t'as pris l'avion. » Bah moi je vous le dis juste, hein, je vous laisse aller vous, hein, en Syrie, en Iran, en Irak, Pakistan, Afghanistan, en hiver et en période de guerre. Bonne semaine, pause vélo. À la semaine prochaine.
Il me fait rêver, Okan. J'aimerais être avec lui de temps en temps. Bon, peut-être pas tout le temps, pas dans les moments où il galère, mais j'aimerais bien l'accompagner et découvrir le monde comme il fait. Alors Priscilla, on va parler maintenant plus précisément de ce qui se passe au niveau de Saint-Brieuc et de l'association Vélo Utile. C'est une grosse association déjà ?
Oui, on peut dire maintenant qu'on est une grosse association. On a plus de 650 adhérents. Donc c'est énorme, hein, pour une ville de 45 000 habitants.
Ah oui, c'est énorme, ouais.
Ouais. Donc on est une grosse association et puis on entend bien peser dans le débat des municipales, justement.
Et vous êtes écouté, en fait. Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont faits ? Je veux dire, des vrais aménagements, pas juste de la peinture, des trucs qui sont vraiment utiles.
Alors, on est écouté, on n'est pas forcément compris. Il y a eu des aménagements, effectivement, qui ont été faits, puisque la ville de Saint-Brieuc, depuis plusieurs années, a entamé une ligne de bus en site propre, en fait, la construction de cette ligne. Et on a eu le deuxième tronçon qui s'est terminé il y a peu de temps. Et on a eu des aménagements. Malheureusement, ils ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Ils ne sont pas du tout conformes, pour certains d'entre eux, aux pratiques. On a beaucoup, par exemple, de voies vertes sur trottoir. Voilà, des choses qui sont assez aberrantes.
Voilà, au lieu de prendre la place à la voiture, on prend la place aux piétons.
On prend la place toujours aux piétons, qui restent quand même les usagers les plus vulnérables, hein, et qui voient leur espace de déplacement grignoter d'année en année, quoi.
Attends, je vais te dire un chiffre qui fait peur, je l'ai lu hier en venant dans le train. Mm-hmm. Quand on augmente le nombre de cyclistes, en général, c'est seulement 10% des néo-cyclistes qui viennent de la voiture. Les autres viennent des transports en commun ou des piétons. C'est quand même triste, quoi. Alors qu'on fait tout pour que... Enfin, le but de l'émission, c'est quand même de faire en sorte que les automobilistes lâchent le volant et puis prennent
oui.
le guidon.
Alors effectivement, c'est le but normalement quand on construit telles infrastructures, par exemple, parce que là, l'ambition affichée cliché, en tout cas de la ville de Saint-Brieuc par exemple, c'est de faire un bus à haut niveau de service. Mais quand on ne contraint pas plus que ça les déplacements en voiture, quand on ne contraint pas plus que ça la place de la voiture en milieu urbain, c'est un vœu vain en fait. Ça ne peut pas fonctionner.
Donc on est d'accord, il faut être clair. Si on veut faire quelque chose concrètement pour le vélo, il faut pourrir la voiture.
Alors,
c'est pas politiquement correct, mais bon.
Politiquement correct, ouais, effectivement, on va pas dire pourrir, mais évidemment, face à tous les enjeux qui viennent et qui sont déjà actuellement devant nous, on peut plus se permettre de continuer à construire des boulevards urbains et à juste les mettre limités à 30 km/h et après à faire semblant d'être étonné parce qu'on se rend compte que les gens ne respectent pas la vitesse. La seule chose vraiment qui fonctionne, c'est de contraindre le déplacement, de contraindre l'espace public qui est alloué à ce mode de déplacement, en l'occurrence les déplacements motorisés, et c'est redonner de la place aux usagers les plus vulnérables, donc les piétons et les cyclistes. C'est assez évident.
Quelles actions vous menez à Saint-Brieuc ou dans l'agglomération qui sont un peu originales, un peu rigolotes ou qui pourraient être reprises ailleurs en France ou en Suisse ou en Belgique ?
Alors, je ne sais pas si on est hyper originaux dans la mesure où aujourd'hui... On fait partie donc de la FUB, hein, de la Fédération des usagers de la bicyclette. On a quand même un réseau d'associations qui est tellement, tellement varié, en fait, hein, qu'on va piocher à droite, à gauche des idées, voilà, quand on trouve qu'elles peuvent être pertinentes sur notre territoire. Ce qui est sûr, c'est qu'à Vélo Utile, on est assez polyvalent. On fait énormément d'actions et on essaie de toucher un maximum de publics différents. Par exemple, cette année, on va reconduire une course de vélo cargo, voilà, dont on a fait la première édition l'année dernière. Alors ça, pour le coup...
Combien de morts ?
Alors... Personne, c'était vraiment très sympa et on va le faire le 21 juin normalement 2020, donc j'encourage tout le monde à venir voir ça. A priori, on est les seuls en France à faire ça pour l'instant et on est adoubé par les collègues allemands, donc ça pour le coup, oui, c'est peut-être un petit peu original, mais voilà, on fait des vélorussions comme tout le monde, voilà, nos espèces de masse critique. On a un atelier d'autoréparation qui fonctionne pleine balle, là on a, on a vraiment une fréquentation exponentielle, on a limite un peu de mal à suivre. On a un groupe aménagement pour aller faire du lobbying auprès des élus, des collectivités. On a une vélo-école qui est en train également de se développer. Je suis moi-même monitrice de vélo-école. Donc voilà, j'essaye d'aller apprendre un peu partout aux enfants et aux adultes à circuler à vélo en ville. Donc on voit bien qu'on est assez transversaux et on essaye de proposer des choses intéressantes pour les briochins et puis pour les habitants de l'agglomération en général.
Figure-toi que la semaine dernière, j'étais à Mélès, à côté de Rennes. Mmh. Il y a une association qui a aussi un local de réparation vélo, etc. Mmh. Alors c'est une commune qui est rattachée avec d'autres communes et ils ont une déchetterie. Et la déchetterie est faite pour 5000 personnes. Et l'association, depuis 3 ans, elle est en partenariat avec la déchetterie et elle récupère tout ce qu'il y a comme vélo. Ils ont un local qui fait 200 mètres carrés, c'est blindé. En 3 ans, ils ont réussi, juste en récupérant les vélos qui partaient à la poubelle de 5000 personnes, à blinder les 200 mètres carrés. Et en plus, ils les réparent, ils les revendent pour 10 balles, je crois, donc quasiment rien, ouais. C'est quasiment donné. Limite, tu crèves un pneu, tu vas racheter un vélo, quoi. Et tu vas même pas t'embêter à mettre une rustine. Et ils me disaient qu'avec les vélos qui partent à la déchetterie, ils en récupèrent 4. Ils en refont 3 parce qu'il y a des pièces détachées, etc. Mmh. 3, moi, ça me rend fou. Donc, je te donne l'idée, peut-être, si vous voulez plus de vélos, un partenariat avec la déchetterie, c'est pas si mal que ça.
Alors, oui, c'est ça. C'est effectivement un partenariat à construire auquel on pense depuis plusieurs années parce que, effectivement, régulièrement, quand on va à la déchetterie, on voit des vélos qui, pour le coup, pourraient être utilisés ou au moins les pièces pourraient être récupérées et on les voit là, comme ça, pourrir au fond de la benne. Donc, c'est un peu dommage. Maintenant, le réseau Eurocyclage, quand même, depuis pas mal de temps, voilà, ça fonctionne bien et justement, ils essayent de favoriser comme ça ces dynamiques de partenariat avec les déchetteries locales. Donc, c'est assez cohérent parce que c'est la vision qu'on développe. On parlait tout à l'heure d'empreinte carbone, finalement, d'un cycliste, ou en tout cas du vélo depuis sa fabrication jusqu'à son emploi. Évidemment, si on peut récupérer un vélo de seconde main, le retaper, c'est encore mieux. Ça permet effectivement de réutiliser, de ne pas avoir à créer de la matière supplémentaire. Donc nous, à Vélo Utile, en tout cas, on est complètement dans cette mouvance-là. Et ça nous permet en plus de vendre donc des vélos qui ont une valeur ajoutée. Voilà, ils sont vintage, ils ont une petite histoire. Et en plus, ça nous permet effectivement de les vendre vraiment à des tarifs vraiment dérisoires. Et tout ça, ça concourt au fait que pour nous, le vélo est universel, est accessible à tout le monde. Donc on défend vraiment cette vision-là.
Le vélo, c'est l'amour.
Ah oui, c'est l'amour.
Non,
oui,
je te
oui.
pousse un petit peu, parce que la semaine prochaine, figure-toi que c'est la Saint-Valentin. Et nous, à Pause Vélo, on fait la Saint-Vélotin. On a instauré ça l'année dernière. On avait, je le dis parce que ça sera la prochaine émission, on l'avait consacré à tout ce qui tourne autour de l'amour et du vélo. Et on avait lu, tous les chroniqueurs, on avait écrit une lettre d'amour à notre vélo. Et cette année, on s'est dit, on ne peut pas refaire la même chose, on va faire mieux. On a décidé de faire écrire une lettre d'amour à certaines personnalités. Alors, il n'y aura pas Nicolas Hulot et Greta Thunberg, quoique Nicolas Hulot, on ne sait pas. Mais il y aura quelques personnalités qui vont nous écrire. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'épisode prochain de Pause Vélo. Il est l'heure de retrouver Gwendal pour l'agenda.
Bonjour à tous, c'est Gwendal encore pour l'agenda des événements cyclistes près de chez vous.
Ça y est, c'est les premières bourses au vélo de l'année, hein, en ce mois de février qui commence. On adore ça, vous pouvez, comme son nom l'indique, venir faire de bonnes affaires et trouver le vélo qui vous accompagnera pour de longues années. Rendez-vous le 15 février, donc de 10h à 18h à Valdois, près de Mulhouse. C'est dans le 90, territoire de Belfort. Cette première bourse au vélo est organisée par l'Avenir Cycliste du territoire de Belfort. Le 15 février, événement un peu spécial pour tous ceux qui aiment l'art, le plein air et bien sûr le vélo. Vous ne pouvez pas louper ce que vous propose Valdoise Aventure. Rendez-vous à 9h30 à Auvers-sur-Oise. C'est une balade à vélo au milieu des paysages qui ont servi d'inspiration pour tous les plus grands impressionnistes, style Monet, Renoir ou encore Van Gogh. Ces balades sportives et culturelles vous seront guidées par Léonie de Bourges, qui est vraiment un as du mouvement impressionniste local. Vous pouvez louer des vélos avec GPS muni d'écran vous affichant en temps réel les tableaux, donc tout ça accompagné d'explications. C'est vraiment une superbe initiative qui fait preuve d'innovation. Cette balade peut se faire aussi le 16 ou le 17, et c'est vraiment à la journée, donc n'hésitez pas à y aller. Et enfin, pour finir cet agenda, je vous propose également le 9 février de vous rendre au boulevard Paul Painlevé à Lille pour répondre présent au petit événement organisé par l'association Droit au vélo Nord-Pas-de-Calais. Toujours plus long les noms d'associations. Hein. Une superbe initiative également qui a pour but d'inaugurer la fin des travaux de toute nouvelle piste cyclable pour rejoindre Villeneuve-d'Ascq, donc depuis Lille et inversement. Hein. Sinon ça n'a pas trop l'intérêt. Cela vous permet non seulement de repérer de nouveaux lieux de balade à vélo, mais aussi d'en parler autour de vous. Il faut partager l'avènement de ces nouvelles pistes cyclables qui s'ouvrent un petit peu partout. Peut-être que ça convertira de nouveaux vélotaf hein, qui seront désormais desservis par ces nouvelles routes. C'est tout pour la semaine et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle route.
Et je rajouterai à l'agenda de Gwendal que le dimanche 9 février à 17h, à Saint-Genis-Pouilly, c'est en France mais c'est en banlieue de Genève, il y aura la projection de Vélotopia, le documentaire sur le vélo, en présence du réalisateur. On est toujours avec Priscilla, on va conclure. Tu voulais parler encore de diversité et de vélo, de biodiversité et de vélo. Que dire qu'en vélo, on est en contact avec la nature?
Effectivement, quand on est cycliste, d'autant plus du quotidien, on n'est pas enfermé dans un habitacle de voiture. Donc notre environnement, il est immédiat, il est proche. Donc ça nous permet de créer du lien social. Déjà, c'est tout bête, mais quand on est à vélo, on peut dire bonjour aux gens, voilà, aux passants. On reconnaît souvent d'ailleurs les gens qui partent au travail en même temps que nous. Et en plus, on est au contact vraiment de la nature et on est les premiers témoins, je dirais, avec les piétons, des changements de notre environnement, quoi. Quand on voit effectivement qu'il y a un endroit qui a été dégradé, il y a un endroit qui n'a pas été entretenu, il y a un endroit qui, au contraire, aujourd'hui, a été maintenu. Il parlait de jachère tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'endroits maintenant qui le laissent dans cet état-là. Je dirais qu'on est, les témoins, voilà, des fois de la destruction de la biodiversité, mais aussi parfois de la biodiversité qui lutte et qui arrive à se maintenir malgré tout.
Et avec un guidon et à 15 km/h, c'est quand même beaucoup plus facile d'éviter des escargots, des chenilles, des hérissons et des lapins qu'en voiture.
C'est ça. Personnellement, je n'ai jamais tué d'animaux et vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
On va instaurer quelque chose de tout neuf avec Pause Vélo. Il se trouve que l'émission dernière, on avait mis un petit dessin. Dans la version YouTube, il y avait Lily, une petite fille, qui nous avait envoyé un dessin et qu'on avait mis en image sur la version YouTube. Eh bien, on aimerait reconduire cette tradition. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour sauver l'humanité, faites du vélo? Mettez-le nous en dessin ou prenez une photo et à chaque fois, on conclura l'émission avec une image que vous, auditeurs, vous nous envoyez parce que cette émission, c'est aussi la vôtre et on est une grande famille et on veut que la famille s'agrandisse, qu'il y ait de plus en plus de cyclistes. Et il y a un truc très important pour nous, c'est un message vraiment central. On conclut toujours l'émission comme ça. Vous le savez, n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo!
Thank you.